mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, je m'inspire pour cette série d'émissions de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse et qui est toujours disponible en version papier. Une version numérique est en préparation et sera diffusée ultérieurement. Alors, où en sommes-nous ? Nous avons vu que la culture pouvait se définir par rapport à l'immédiateté des pulsions, par le sens du futur. Hein. Si je dis « demain, je ferai quelque chose », je me situe dans une perspective de projet, d'anticipation, et j'échappe au présent. L'homme, ainsi, pourrait-on dire, est une différence différente. Alors, ça veut dire quoi ? Bien, le second, le participe, différente avec un A. Hein. C'est-à-dire, ce qui caractérise l'homme, ce qui le différencie des animaux, c'est le fait de différer dans le temps les satisfactions qu'il se propose. Donc, l'homme est capable d'anticipation. Et là-dessus, voyez la phrase de Paul Valéry, « Toute civilisation est perspective », c'est-à-dire sens du futur. Notez bien que ce qui différencie l'homme de l'animal, ce n'est pas la complexité du travail effectué, mais le rapport au temps. Le travail des abeilles, par exemple, ainsi que Marx l'a remarqué, est très complexe. Mais si on ne vit que dans et pour le présent, on régresse à l'animal, à l'animalité. Aujourd'hui, certains sociologues, comme Michel Maffesoli, disent que l'on perd le sens du futur. On ne vit plus sur un report de jouissance. Pour ce sociologue-là, ce n'est pas la fin de la culture, mais la marque d'une nouvelle culture qui n'intégrerait pas l'idéologie sacrificielle traditionnelle. Mais on peut en douter, on peut y voir, au contraire, le règne de l'immédiateté pulsionnelle, de l'absence de projet et de l'unidimensionnalité d'individus sans structure. Je veux dire avec seulement des appétits et des réflexes, sans réflexion. Alors sur l'absence chez certains du sens du futur, voyez la phrase par laquelle Montesquieu, dans l'esprit des lois, définit le despotisme. Il écrit « Quand les sauvages de l'Amérique veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre et mangent le fruit à terre. » Alors vous voyez là la stupidité de ce comportement. Ne penser qu'au présent mène effectivement à un gaspillage irréversible. Vous voyez aussi du même Montesquieu dans les lettres persanes, les lettres 11 à 14, où Montesquieu nous fait un apologue à propos des troglodytes et il oppose les bons troglodytes qui sont prévoyants, qui anticipent sur le futur et les mauvais qui sont imprévoyants. Alors maintenant, je vais aborder un point essentiel, c'est le rôle du langage. Dans le cas du projet, de l'attente du lendemain, de la promesse, de l'engagement, c'est donc le langage qui relaie les pulsions et qui les remplace. On pourrait dire, sans exagérer, que c'est la verbalisation tout entière qui fonde et qui sous-tend la culture par opposition à la domination des actes réflexes. Ce n'est pas la même chose, par exemple, que de faire l'amour sans parler et de le faire en parlant, car des représentations sont permises dans le langage et ces représentations autorisent, comme je l'ai dit dans une émission précédente, non pas le « parce que », mais le « pour que » qui définissent la promesse, l'engagement, non pas la causalité, mais la finalité. J'avais dit dans la première des émissions que quand on épouse quelqu'un, on ne l'épouse pas parce qu'on l'aime, mais pour l'aimer. On s'engage pour le futur. Donc l'homme est le seul être qui soit capable de promesses. Vous voyez bien qu'une déclaration d'amour nous engage bien plus qu'un geste d'amour. le geste peut très bien n'être qu'instinctif ou réflexe. Dire « je t'aime » à quelqu'un, c'est autre chose que lui prendre la main. Et la caresse même, hein, il n'est pas sûr qu'elle soit toujours un acte volontaire. Souvent, on dit qu'on caresse quelqu'un, mais en réalité, on se caresse à lui. Un chat, par exemple, ne nous caresse pas, il se caresse à nous. C'est ce que dit Montaigne. « Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle ne passe pas son temps de moi, bien plus que je ne fais d'elle ?» Et au contraire de cela, il y a un poids ontologique des mots qui leur confère une importance, une conséquence que jamais n'auront les simples gestes. Voyez là-dessus le livre de Brice Parrain qui s'appelle « Recherche sur la nature et les fonctions du langage ». L'aveu même dans le langage augmente la faute, car ce qui n'est pas dit n'existe pas, ou pas autant que ce qui est dit. Voyez ce que dit Phèdre dans la pièce de Racine, c'est la scène 3 de l'acte 1. « Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. » C'est ce que dit Phèdre à Œnon, qui la somme de dire quelle est l'origine de son mal. Je pense aussi à la réflexion que fait le comte Mosca dans la Chartreuse de Parme de Stendhal à propos de la Sanseverina et de Fabrice. Il se dit « Si le mot « amour » vient à surgir entre eux, je suis perdu. En effet, ils sauront qu'ils s'aiment quand ils seront dit, hein, et alors seulement. Hein. » Donc, pour résumer tout cela, je dirais que par le langage, l'homme échappe au présent. Il entre dans la perspective du futur. Cette perspective, c'est celle de l'espoir, de l'attente ou de la représentation, du désir essentiel. Au Moyen-Âge, par exemple, l'homme occidental a inventé le purgatoire. Eh bien, il l'a évoqué, il l'a raconté, désiré, espéré. Et la verbalisation du purgatoire, les représentations mentales qu'elle a permises, l'ont délivré de la peur. Il suffit de lire à cet égard le livre de Jacques Le Goff sur l'invention du purgatoire. Alors la fonction du langage, en réalité, elle est thaumaturgique, c'est-à-dire qu'elle va créer en quelque sorte des miracles. Le langage est en quelque sorte autoréalisateur, ou comme disent les linguistes, il est performatif. « Parle seulement par ta parole », lit-on dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 8, hein, pour signifier une demande de miracle formulée par celui qui parle à Jésus. Hein. Notez bien qu'il ne faut pas traduire « dis seulement une parole », parce qu'en grec et en latin, il y a non pas des accusatifs, mais des instrumentaux. En grec, « eipe logo », en latin, « dic verbo », c'est-à-dire « parle par ta parole hein. ». Il n'y a pas « logon » ni « verbum », vous voyez. Ce qui veut dire que c'est le fait seul de parler qui est important, qui fait changer de monde. Thank you. le langage est évocation. Et qu'est-ce que cela veut dire évoquer ? Évoquer, c'est faire venir, evocare en latin. Or, je pose la question, quelle présence dans nos vies est la plus haute ? Celle qui s'étend sous nos yeux ou bien celle de ce qui est évoqué, représenté dans l'esprit, formulé dans le langage ? Qu'est-ce qui attire le plus ? Les choses même que l'on voit ou la chose que l'on espère et que l'on attend ? Car c'est à cela que sert le langage. Il n'a pas qu'une fonction utilitaire, désignative ou référentielle. Il a une fonction incantatoire, suscitante. Il s'agit pour lui d'éveiller des présences, absences, vous voyez. Si je dis par exemple que la neige tombe, que la cloche sonne dans le silence du soir, je ne vois pas tomber la neige. Avec mes yeux, je n'entends pas sonner la cloche avec mes oreilles. Et cependant, la neige qui tombe et le son de la cloche sont bien présents en moi. C'est autre chose, un autre type de présence, sûrement bien supérieure aux présences de la perception. Le philosophe allemand Heidegger, dans « Acheminement vers la parole », insiste bien là-dessus. « Tout se crée par notre attente ». Les objets de langage sont et ne sont pas, et par conséquent sont bien plus que tout ce qui est. Il suffit de lire, par exemple, un très beau poème de Paul Valéry qui s'appelle « Les pas », qui s'intitule « Les pas ». Je vous le lis. « Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placé, vers le lit de ma vigilance, procèdent muets et glacés. » Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ses pieds nus. Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. » Vous voyez, il y a à la fin un énalage pronominal, c'est-à-dire que le poète passe du « tu » au « vous » pour bien marquer l'importance de ce qui est espéré, désiré dans l'attente. Eh bien, nous sommes ici exactement à l'opposé du monde des instincts, des réponses immédiates ou réflexes purement réactionnel à des stimuli extérieurs. C'est le monde de l'anticipation, de l'image mentale, des mots qu'on dit ou qu'on se dit. Et alors on comprend que grâce à ces propriétés de lieutenance du langage, le langage tient lieu des choses, grâce à la magie substitutive inhérente au langage, peuvent être rendues possibles à la fois la répression consentie et le sacrifice volontaire des pulsions qui sont l'essentiel du processus de culture, vous voyez. Alors, on n'insistera jamais assez sur la nécessité pour une culture de la représentation mentale, de la représentation des choses dans l'esprit. On peut dire, toujours à propos du langage, que le langage me précède et que la parole en moi est parlante. La parole parle en moi. Cette parole va me modeler et façonner ma vie. Je n'existe vraiment que figuré dans un discours ou un langage antérieur, quel qu'il soit, et je ne suis vraiment que représenté. La norme, c'est de me reconnaître dans une représentation de moi qui me préexiste. Ainsi, chez Dante, Paolo et Francesca ont l'idée de s'embrasser en lisant le récit d'un baiser. Il me baisa la bouche tout tremblant. Sinon, on n'aurait jamais eu cette idée si on n'avait pas lu déjà une œuvre antérieure. Paul Valéry disait de façon très astucieuse, « Sans les romans, comment pourrait-on s'y prendre pour faire la cour à une femme ?» Vous voyez ? Donc les choses essentielles nous sont moins naturelles qu'elles ne sont inscrites déjà dans des systèmes représentatifs. Je parle du langage, des images, des œuvres de toutes sortes, qui nous guident et qui nous dirigent. C'est l'idée qui était chère à Pierre Legendre du miroir qui structure l'homme pour le faire advenir véritablement à l'humain, à l'espace de l'humain. Le miroir va façonner l'homme pour qu'il ressemble à l'homme. Développons ce thème du miroir, qui est essentiel pour comprendre comment fonctionne une culture. Le miroir est une sorte d'instance tierce. Il ne propose pas un reflet à l'identique qui flatterait un narcissisme chez nous, un narcissisme qui serait mortifère, mais le miroir me propose un modèle d'identification. Ce n'est pas pour rien, ce modèle d'identification va me faire vivre, hein. Ce n'est pas pour rien qu'on voile les miroirs dans les chambres des morts et que le vampire, dit-on, le vampire qui est un mort vivant, hein, ne se reflète dans aucun miroir. Donc le miroir est instituant et donne vie. De la même façon, le schizophrène, nous dit-on, ne reconnaît pas son corps, il est étranger à lui-même. Et l'enfant aussi a besoin de se reconnaître pour devenir un être. Dans un miroir, il ne voit d'abord, quand il est tout petit, qu'un autre enfant. Et puis, vers 3 ans à peu près, hein, il se reconnaît lui-même. Et l'animal est incapable d'arriver à ce stade de reconnaissance dans le miroir. Donc, il n'y a aucune présence possible au monde, aucune vie possible pour celui qui n'est représenté nulle part. Et tout cela, je dirais, même si derrière l'instance représentante, même si, s'il n'y a rien, ou le vide, hein, comme dans le tableau de Magritte, la lunette d'approche, c'est un exemple qui est pris par Legendre dans son texte essentiel « La fabrique de l'homme occidental ». Donc, il y a un rôle transcendant du miroir représentatif. J'ai écrit, il y a un certain nombre d'années, un livre paru au CRDP qui s'appelait « Laquelle est la vraie ?». Ce livre est malheureusement épuisé maintenant. Vous pouvez voir la couverture si vous allez sur mon blog. Hein. Eh bien, j'ai voulu opposer l'image reflétée dans un miroir qui est nette et le visage qui est lui-même flou. Et on voit par là lequel des deux est le plus important. C'est bien entendu le reflet net qui est important. Ce qui compte, ce n'est pas le reflet d'un réel, mais le réel de ce reflet. Hein. Et là, j'ai bien mis les choses au point, puisque c'est moi-même qui ai pris la photo. Il s'agit d'une mise au point, si vous voulez, que fait le photographe. Et c'est aussi une mise au point intellectuelle. Hein. J'ai bien mis au point les choses dans les deux sens de l'expression. C'est l'image qui est nette et notre vie qui est floue. Hein. Et le secours indispensable de ceux qui n'existent pas, le reflet, nous fait exister en nous donnant notre vraie figure. Il y a un très beau texte d'Apollinaire aussi sur ce rôle essentialisant du miroir. C'est dans Calligramme. Ce texte s'appelle « Cœur, couronne et miroir ». Je vous le dis. Dans ce miroir, je suis enclos, vivant et vrai, comme on imagine les anges, et non comme sont les reflets. En effet, le cadre suffit à essentialiser, car il isole de tout le reste. Hein. Je suis enclos, vous voyez. Et les miroirs, comme le dit Baudelaire dans l'invitation au voyage, sont profonds, des miroirs profonds. Hein. Et les peintres, souvent, ont coutume de regarder le sujet qu'ils voient dans un miroir. Ils se promènent avec un miroir dans leur poche et ils regardent justement le paysage dans le miroir. Hein. C'est parce que le miroir donne une image plus probante que celle que voient nos yeux. Elle est vraie, cette image, comme aussi ces modèles dont parle l'Évangile selon Thomas. Je rappelle que nous avons consacré une série d'émissions avec Redouane il y a 2 ans sur mon livre qui s'appelle « Une voix nommée Jésus, l'Évangile selon Thomas ». Et dans cet évangile, nous voyons qu'il y a les modèles humains qui s'opposent à la simple ressemblance. La ressemblance flatte notre narcissisme. Et cette image du modèle est à la fois attirante, nous devons nous conformer à ce modèle, et accablante, parce qu'on se demande si on s'y conformera toujours pleinement. Il s'agit du Logion 84 de l'Évangile selon Thomas. Jésus a dit « Les jours où vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez, mais lorsque vous verrez vos modèles, qui au commencement étaient en vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, qu'est-ce que vous supporterez ? Voyez ? Donc ne croyez pas que le miroir nous fait plaisir tout le temps, ce n'est pas âgerie de me voir si belle en ce miroir, mais il y a des cas où le miroir nous condamne, parce que nous sentons bien que dans notre vie, nous ne serons pas au niveau de ce modèle qui nous est présenté. Alors, les références sont innombrables sur la transcendance du langage et des signes des choses, qui triomphent des choses. Le langage nous visite plutôt qu'il n'est à notre service. Il descend sur nous comme des langues de feu, les langues de feu de l'Esprit, du Saint-Esprit sur les apôtres, le jour de la Pentecôte. Voyez le vers de Victor Hugo, « Les mots sont les passants mystérieux de l'âme ». Au fond, je dirais que quand le sens profond du langage est vraiment senti et pénétré par le locuteur, et c'est le cas par exemple de tous les écrivains qui ne font que se mettre à l'écoute du langage, nous servons les mots plutôt que nous nous en servons. Le paradoxe, bien sûr, est que si nous prononçons les mots, s'ils viennent bien de nous, c'est vrai que si nous ne sommes pas là pour les dire, ils n'y sont pas, hein. En réalité, les mots que nous disons sont plus que nous, ils nous guident, ils nous dépassent. Ce modelage de nos vies par les mots, c'est la leçon aussi du très beau livre de Nathalie Sarotte, « L'usage de la parole ». Alors j'aime bien, dans mes livres divers, faire des comparaisons avec les autres arts, hein, littérature, chanson, cinéma, etc. Donc sur notre façonnement et notre modélisation par les œuvres artistiques antérieures, voyez le cinéma qui tire ses situations, les situations du scénario, de chansons. Voyez par exemple d'Alain René « On connaît la chanson », hein, ou bien « Huit femmes » de François Ozon, ou bien « Tout le monde dit I love you » de Woody Allen, ou bien « Les chansons d'amour » de Christophe Honoré, etc. Vous voyez, donc le cinéma se sert de chansons pour inventer ces situations, mais inventer pas seulement, mais au sens inuenire en latin, c'est-à-dire trouver des situations, hein, pas seulement inventer quelque chose de nouveau, mais trouver quelque chose de déjà existant, vous voyez. Et pour l'inverse, le processus inverse, il arrive que la chanson elle-même s'inspire du cinéma. Voyez par exemple les chansons de Vincent Delerme, Fanny Ardant et moi, ou bien Deauville sans Trintignant, vous voyez. Donc je pourrais dire, pour résumer tout ce que je viens de dire, avec Borges par exemple, qu'aussi bien dans les moments essentiels de nos vies que dans la création, tout n'est qu'une gigantesque réécriture d'œuvres antérieures, ce qu'on appelle un palimpseste. Un palimpseste, c'est un parchemin regratté sur lequel on a écrit un autre texte, littéralement, parce que les parchemins étaient chers dans l'Antiquité, hein. Mais en fait, c'est justement la réécriture de quelque chose d'existant déjà. C'est ce qu'on appelle en littérature, d'un mot savant, qu'on appelle l'intertextualité. Mais en fait, tout se répond... car tout est déjà mis en scène. Et pour montrer comment représentation et langage sont essentiels, comme soubassement de la culture, je pourrais procéder à contrario. Je pense par exemple au film « La haine » de Mathieu Kassovitz. Il nous montre comment s'opère la déstructuration d'un être et la déculturation générale, quand plus aucun discours suivi ou plus aucune mise en scène de la vie ne sont perçus. Les trois perdus du film disent au vieux monsieur qui vient de leur raconter une histoire à laquelle ils ne comprennent rien, mais qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir nous dire ? En effet, ces jeunes gens n'ont aucun outil verbal, concentration, mémoire, pour saisir une quelconque mise en scène ou représentation de la vie. Donc, pour résumer ce point, je dirais que toute culture est en péril quand la notion de représentation est en crise. Et je prends ce mot dans tous les sens qu'il peut avoir. Représentation dans l'esprit par l'intermédiaire du langage, mise en scène de théâtre, car dans tous les actes importants de notre vie, nous jouons et incarnons des rôles. La pièce est déjà distribuée, en quelque sorte. Et j'ajouterai aussi représentation au sens politique, pour donner à la fin de mon émission un ancrage sur l'actualité. Hein. Quand la représentation est en crise, hein, eh bien, il y a un problème important. On parle bien sûr de démocratie représentative par opposition à démocratie directe. Eh bien, la crise de la représentation en politique est toujours de mauvais augure, car elle mène à l'appel aux seules et immédiates pulsions qui sont censées être populaires et qui refusent tout intermédiaire représentatif. L'antiparlementarisme, par exemple, est très souvent le triomphe de l'immédiat sur la médiation, de l'affect viscéral et réflexe, ce qu'on appelle l'appel aux tripes, sur la réflexion. Et cela est vrai aussi du monde social, où il ne faut pas trop se réjouir trop vite du déclin des instances représentatives, comme les syndicats, etc. Donc vous voyez ici que tout se tient. On parle de la déculturation à propos de la perte du langage, ensuite on parle du populisme politique, etc. Mais je pense effectivement que la politique tout entière peut être vue comme une construction symbolique, une représentation, un spectacle, un édifice langagier. La politique, elle est langage, elle est mythe, au sens grec de ce mot, parole fictionnelle, elle est récit, elle est storytelling. Alors évidemment, il y a aussi danger de mystification, comme on le voit dans l'état spectacle de Schwarzenberg ou encore dans la société du spectacle de Guy Debord. Mais toute mythologie, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire à partir d'une lecture hâtive du livre de Roland Barthes, mythologie, n'est pas aliénante, car s'il y a des mythes mystificateurs, il y a des mythes instituants, comme il y a des miroirs instituants. Voilà, eh bien je vous dis à la prochaine fois, j'espère ne pas avoir été trop abstrait. De toute façon, nous reviendrons sur ces thèmes et nous les illustrerons encore de façon concrète. Rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.